Bonjour tout le monde, ici Pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Semences de la foi. Aujourd'hui, on est content d'être avec vous pour vous parler de Noël. Et on a avec nous aujourd'hui en studio Yvan Rault, qui est le fondateur du site web croissance.net. Bonjour Yvan.
Bonjour Pasteur Joël.
Ça va bien?
Ça fait plaisir d'être invité à votre émission.
Bien, ça nous fait très plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro pour parler à nos amis sur la radio. Et puis, ça nous fait plaisir parce que souvent, on a les messages qui sont enregistrés à EVQ. Mais aujourd'hui, on commence une nouvelle émission, un nouveau format où on va revenir à l'occasion et parler des thèmes qu'on a à cœur. Et puis, toi, Yvan, parle-nous un peu de toi pour te présenter aux auditeurs aujourd'hui concernant ton ministère sur Internet que tu as déjà implanté depuis, je pense, 10 ans, c'est ça?
Depuis 1999, en fait. Quand j'avais commencé mon site web, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de sites francophones chrétiens, alors qu'il y avait déjà beaucoup de matière en anglais. Donc, ça m'a mis à cœur de mettre mes prédications sur Internet pour débuter, et après, j'ai développé des sujets de...
OK, des études, tout ça. Tu as plusieurs études sur plein de thèmes, finalement.
En fait, depuis 15 ans, je rajoute tout le temps du nouveau matériel. Là, je dois avoir au-dessus de 2000 pages sur mon site présentement.
Wow!
Là, puis, c'est ça. Ça fait que je vois, d'après les visites, que les gens ils apprécient qu'est-ce que j'apporte. Donc, ça me stimule à continuer à fournir mon site de nouveau matériel.
Excellent. Puis, en plus, toi, Yvan, tu aimes vraiment faire les recherches. Ça, je sais que tu es quelqu'un, dimanche, comme je prêchais ou pendant les annonces, je me souviens plus trop quand, mais je t'ai présenté comme étant un savant. Et puis, on va te recevoir aujourd'hui comme étant un expert dans la matière concernant la fête de Noël. Je sais que tu as fait des recherches concernant les origines, tout ça. Et puis, on va passer du temps, justement, à en parler parce que je sais, dans le monde chrétien, on a toutes sortes de questions. On entend parler de toutes sortes de choses. Il y en a qui sont complètement contre Noël à cause du Père Noël. On a dit que, le Père Noël a remplacé Jésus. Et c'est vrai dans certains cas. Ceci dit, il y en a qui ont dit, ben là, finalement, si on fête Noël, on est vraiment païen. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à l'extrême et dire, finalement, si on fête Noël, on n'est pas de Dieu. Il y a tellement de positions. Il y en a d'autres qui disent, ben non, il faut fêter Noël et puis on ne parle que des cadeaux et du matériel. Mais je pense que Dieu, il y a une façon pour nous, pour chaque chose. Il y a toujours un plan. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est découvrir un peu les origines et voir comment on devrait réagir aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devrait voir la fête de Noël? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Et donc, je vais te poser une première question, Yvan, concernant cette fête importante pour moi, l'origine de la fête de Noël. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça a commencé?
Oui, en fait, le mot Noël, c'est la déformation du mot latin natale, qui signifie naissance. Il y en a d'autres, par contre, qui pensent que le mot Noël, ça vient de l'expression gauloise « noyohel », très proche du grec « nea helios ». On peut traduire en français ces deux expressions par « nouveau soleil ».
OK. Moi, je pensais, par contre, que Noël, ça venait du mot « nativité », mais ça revient un peu quand même.
Oui, c'est « nativité » qui vient du latin aussi « natale », tu sais, parce que le français vient du latin naturellement. Ouais. Hein, ça fait que ça se peut que ça ait une déformation qui soit devenue en français « Noël ». Mais comme on voit aussi, ça peut venir aussi d'une expression gauloise « noyoel » qui sonne beaucoup plus proche de « Noël » en fin de compte. Oui. Parce que les Gaulois, c'est nos ancêtres francophones, en fait. Ça fait que peut-être ces deux éléments-là ont joué dans la formation du mot Noël qu'on a présentement. Hein.
Parfait.
Puis bien avant la naissance de Jésus, les gens appelaient cette fête ainsi dans leur dialecte respectif. Parce que le soleil a commencé à prendre de la vigueur après avoir été à son plus bas le 21 décembre. C'est pourquoi qu'ils avaient institué cette fête-là pour se réjouir du fait que le soleil prenait de la force. Avant même de fêter Noël au 1er siècle avant Jésus-Christ, la ville de Rome s'y libérait le culte de Mitra. Mitra, c'est une divinité perse de la lumière. C'est pour ça que le 25 décembre, c'était alors le jour du solstice d'hiver, la naissance de la divinité Mitra qui prenait de la force.
Okay.
Puis on sacrifiait un taureau pour, en fin de compte, en son honneur, pour dire « Hey, là, le soleil prend de la force. » C'est comme la naissance.
Donc, on comprend pourquoi les gens disent que c'est une fête païenne d'origine.
En effet, c'est dans ce temps-là, il y avait effectivement une fête là, qui montrait qu'il y avait une naissance. C'est pour ça. Je trouve que c'est important quand même de mentionner ça parce que ça donne l'arrière-plan. Oui. Qu'est-ce qui a amené les gens, les chrétiens, à s'identifier à la fête de Jésus?
Oui.
OK, je vais vous expliquer comment ça a fonctionné, en fin de compte. C'est au 4e siècle. Le christianisme était rendu dans le pouvoir à cette époque-là. Parce qu'il faut se rappeler que les trois premiers siècles du christianisme, ils étaient très persécutés par les empereurs et tout ça. Mais à un moment donné, il y a un empereur qui est devenu chrétien. Et là, ça a tout chamboulé la façon que le christianisme était perçu dans l'Empire. Oui. Même là, c'est là qu'ils ont commencé à avoir les fêtes, de voir comment ils pouvaient christianiser ça, parce que les gens aimaient fêter, puis c'est normal. Mm-hmm. Puis ils se sont dit, tant qu'à fêter, ben pourquoi pas fêter des événements bibliques.
Oui, sauf qu'ils intégraient le paganisme dans le christianisme.
Il y en a qui voyaient ça comme ça, effectivement. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions. C'est comme on va voir, là, comme je vais vous parler. Je vais vous donner l'historique de ça. En fin de compte, c'est en 354 après Jésus-Christ, le pape Libère, de son nom, il avait décidé d'associer la date du 25 décembre à la naissance de Jésus.
Donc, si on s'arrête deux secondes, c'est vrai qu'on entend les gens dire que le 25 décembre, c'est pas vraiment la fête ou la date de naissance de Jésus.
Non, c'est ça. Vrai. Puis il y avait une raison pourquoi ils ont choisi cette date-là, parce qu'il y avait déjà une naissance qui était fêtée, là, la naissance du soleil, la naissance du culte de Mitra. Mm-hmm. Puis le pape, lui, a décidé de mettre une autre naissance, la naissance chrétienne, là, parce qu'ils se sont dit, les gens sont habitués de fêter cette date-là. Mm-hmm. Donc, au lieu de lui dire ne fêtez plus, ce qui aurait été difficile pour les gens qui étaient habitués de fêter, de dire, fêtons plutôt la naissance de Jésus.
Oui, c'est ça.
Le principe était très bon, tant qu'à moi. Puis il a jugé l'événement qui était le plus apte à se substituer à la fête de Mitra, c'était la naissance de Jésus. Mm-hmm. Parce que la naissance de Jésus n'était pas fêtée encore dans le monde chrétien, de ce qu'on peut voir là, dans les pères de l'Église. Il n'y a pas de mention particulière à ce niveau-là.
Non,
dans la Bible non plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne fêtait pas Noël. Mm-hmm. C'est juste qu'il n'était pas mentionné.
Donc, il ne fêtait pas la fête ou la venue du Messie.
Ouais.
Il pouvait peut-être fêter la venue du Messie, mais pas comme on connaît Noël aujourd'hui.
Non, effectivement. Ça, c'est sûr qu'il y a eu bien des changements au fil des siècles.
Et c'est pour ça aussi, quand on étudie un peu l'histoire, on voit que les Puritains... aux États-Unis, était vraiment contre Noël. Non seulement à cause des origines païennes, mais il y avait également toute la dimension, il y avait la dimension religieuse qui était là, mais aussi très mondaine, si on veut, où les gens se saoulaient. Il y avait comme une fête, là, les gens étaient là, ils se saoulaient, et puis ils allaient à l'église traditionnelle là-bas, et puis finalement, il y avait tellement de contradictions, donc les puritains qui voulaient vraiment respecter la parole de Dieu s'opposaient à cette fête, qui disaient c'est vraiment une fête qui déplaît à Dieu. Donc, on connaît ça un peu. Aujourd'hui, si jamais il y a quelqu'un qui vient juste d'allumer la radio, on parle de Noël. Et je ne suis pas contre la célébration de la venue du Messie. Certainement pas. Mm-hmm. Mais on est contre les pratiques qui vont déplaire à Dieu. Certainement. C'est ça qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. Oui, donc, c'est ça. C'est la date de naissance du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver une date dans la parole?
Ah, en effet, il y a quand même des indications dans la parole de Dieu qui peuvent nous montrer que Jésus-Christ est né à la fin du mois de septembre. On va en venir à ça. Première des choses qu'il faut voir, c'est qu'il y a des passages dans la Bible qui nous montrent que ça ne se peut pas que ce soit en hiver que Jésus soit né. Même si le pape Libère a choisi le 25 décembre pour les raisons qu'on connaît, on voit quand même dans la Bible, si on prend comme Esdras, le livre d'Esdras au chapitre 10, verset 9, il nous montre que dans ce temps-là, il pleuvait régulièrement durant l'hiver. Donc, il disait qu'au verset 13, que le peuple était nombreux et le temps était à l'appui et il n'était pas possible de rester dehors. Ça fait que si c'était pas possible de rester dehors, là, c'est un signe déjà que les bergers dans le champ ne pouvaient pas rester dans le champ à cette époque-là.
C'est ça.
Puis un autre verset aussi dans le Cantique des Cantiques qui nous dit que l'hiver est passé, la pluie a cessé. Donc, l'hiver, c'était le temps de la pluie.
Okay.
Ça fait que dans ce temps-là, c'est sûr que les bergers ne pouvaient pas être dans le champ avec leurs brebis. Puis c'est ça qu'on lit dans Luc 2:8 qui nous dit que les bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Ils ne faisaient pas juste une petite marche, là, vraiment, ils étaient tout le temps dehors.
Oui, donc au mois de septembre, c'est possible. C'est vraiment plausible que Jésus soit né à cette période-là.
Oui, puis là, il y a d'autres raisons qui nous amènent à penser que c'est le mois de septembre, parce qu'on pourrait se dire que ça pourrait être en juin ou en mai ou n'importe quand dans l'année. Mais pourquoi en septembre particulièrement? J'ai trouvé deux indices en faisant des recherches qui pourraient nous faire tendre à penser que Jésus est né à la fin du mois de septembre. Le premier indice, on le retrouve dans 1 Jean 14, quand il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dans le grec, le mot « habiter », c'est le mot « tabernacle ».
Oui.
Ça fait que ce mot-là, quand on pense au tabernacle, ça nous fait penser à la fête des tabernacles.
Oui.
La fête des tabernacles se déroulait à la fin de septembre. Oui. Les Juifs passaient 7 jours dans des tentes pour se remémorer la sortie d'Égypte. Ça fait que ça pourrait être une allusion de l'apôtre Jean pour montrer, regarde, Jésus est né à cette époque-là.
Oui, ça fait du sens.
J'en conviens quand même que c'est assez mince comme argument, mais l'autre suivant est un petit peu plus convaincant, à mon avis. Vous allez me suivre attentivement, là, parce que là, il va falloir faire des petits calculs mentaux. Mais quand même, vous allez voir la logique de ça.
OK.
Luc rapporte que Zacharie faisait la partie de la classe d'Abia chez les Lévites. Puis Zacharie, on voit dans Luc qu'il avait été dans le temple pour présenter les offrandes de parfum.
Oui, oui.
Puis nous savons que d'après les archives juives, que le mois de juin était le temps de l'année où la classe d'Abia devait servir dans le temple.
Mm-hmm.
Donc, en se basant là-dessus, on peut déterminer aussi l'époque que le Saint-Esprit est venu concevoir Jésus dans le ventre de Marie.
OK.
Puis c'était autour du 25 décembre, justement. C'est assez spécial quand on calcule le mois, parce que c'était sa cousine Élisabeth qui était enceinte de 6 mois quand l'ange Gabriel est venu voir Marie.
Oui, ça, c'est intéressant, oui.
Ça fait qu'il suffit d'ajouter alors 9 mois de plus que ce temps-là pour déterminer le temps où Jésus était né. Ça nous donne la fin de septembre.
Oui, ça fait qu'en fait, si on célèbre Noël le 25 décembre, on ne fête pas nécessairement sa naissance. Là, on peut fêter sa venue.
Sa conception.
Oui, sa conception. Donc, on a raison.
Dans un sens, Jésus est venu sur la terre dans le ventre de Marie à cette époque-là de temps de naissance.
C'est intéressant.
Parce qu'on, c'est ça, si on calcule ça, le 25 décembre, on rajoute 6 mois parce que Élisabeth est enceinte de 6 mois.
Oui.
Bien là, ça nous amène en juin. Puis là, après ça, il suffit de rajouter un autre 9 mois pour montrer que Jésus est né là parce que Marie est enceinte quand elle est allée voir Élisabeth.
Mm-hmm.
Donc, ça nous donne la fin septembre.
Excellent. Bon, ben voilà.
Que, comme ça, on peut dire on a 2 arguments pour avancer que Jésus a été conçu dans le ventre de Marie à la fin décembre, à la fête de dédicace.
Mais ça, c'est intéressant. Mais tu sais, là, Yvan, il y a des gens qui vont s'enferger dans les fleurs du tapis parce qu'ils vont dire « Ah, ben là, on peut pas fêter Noël parce qu'on ne sait pas vraiment si Jésus est né le 25 décembre. » Et puis récemment, bien en fait, hier, je prêchais à l'église et puis j'ai lu un texte, en fait, et je vais vous inviter à venir avec moi dans Ézéchiel, chapitre 8 et le verset 1. Mm-hmm. Et puis, écoutez bien ceci. Ça dit « La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. » Donc, Ézéchiel, ici, nous précise une date et ça semble être important. Donc, ce que j'avançais hier dans ma prédication, c'est que quand Dieu veut qu'on connaisse une date, il va le préciser. Et quand ce n'est pas précisé, bien ça a l'air que c'est pas la fin du monde et ce n'est pas si important que ça. En fait, qu'est-ce qui est important? C'est de savoir que Jésus est venu. N'est-ce pas? C'est pas de s'argumenter sur la date spécifique. Mais on peut faire, comme tu viens de faire, faire des hypothèses et évaluer, bon, c'est possiblement telle date. Mais ce qui est vraiment important, c'est de célébrer sa venue, la venue du roi des rois. Donc, voilà, je viens de mettre mon petit commentaire.
On peut dire la même chose aussi par rapport à la date de sa mort et de sa résurrection. Là aussi, on n'est même pas sûr de l'année exacte même que c'est arrivé.
Oui.
Ça montre que justement l'emphase est sur l'événement plutôt que la date.
Exactement.
Parce que Dieu ne voulait pas qu'on sacralise une journée spéciale de dire hey, « cette journée-là, c'est spécial, c'est la journée où Jésus est né, où il est mort, ressuscité. » Vraiment, c'est l'événement, le sens, la portée de cet événement
Exactement.
Qui est important.
Exactement, oui.
Ça fait que c'est important parce que Dieu aurait tout aussi bien pu dire c'est telle journée qu'il est né, comme tu dis. On a des indications très précises des fois par rapport à certains événements. Même Ézéchiel, on ne sait pas ce qu'il soulignait en particulier cette journée-là.
Mm-hmm. Sauf la main de l'Éternel qui est venue sur lui. Là,
ouais. Pour lui, c'est important cette journée-là. Dans absolument. Sa vie à lui, là, ça arrive absolument pas souvent.
C'est ça, c'est marquant dans une vie quand ça nous arrive. Là,
sûrement qu'on se rappellerait de la date aussi si ça nous arriverait une chose pareille.
Absolument, oui, c'est ça. C'est que bon, l'origine de la fête de Noël, comme on la fête aujourd'hui, on peut dire, oui, il y a une origine où on peut voir si c'était païen au début. Ceci dit, il y a des gens qui vont dire, bien, puisqu'il y avait des choses païennes qui entourent la fête, aujourd'hui, on devrait s'opposer parce que si on est des enfants de Dieu, on veut servir l'Éternel, on veut le suivre et ne pas être contaminé par le paganisme d'aucune façon. Bien, ça, c'est très bien de le dire, mais en fait, c'est quasiment impossible de le vivre parce que si vous dites, par exemple, on se rencontre lundi matin à 10h, bien déjà là, vous venez d'être contaminé par le paganisme parce que même chaque jour de la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour là, a une racine païenne. Lundi, je ne me souviens plus trop.
C'était le jour de la lutte.
Exactement. Donc, vraiment, notre société est bâtie comme ça. Donc, moi, je crois que ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est réaliser, bon, on habite dans le monde, on ne fait pas partie du monde, mais il faut utiliser les opportunités que Dieu nous donne pour avancer son royaume. Donc, si on dit, bon, on se rencontre lundi matin à 10h, bien, c'est parfait, on va le faire, et puis on n'est pas païen pour autant. Pareillement, si on s'est marié et si on porte un jonc sur notre doigt, bien, ça aussi, il y a une racine païenne, et pourtant, on accepte de porter le jonc. Donc, moi, je crois que ce que le Seigneur regarde, c'est vraiment, il regarde à notre cœur. Il regarde à ce qu'on veut, on veut faire avec notre vie. Et premièrement, ce qu'on veut faire, c'est honorer le Seigneur. Et donc, OK, on comprend. Bon, il y a des origines assez païennes qui entourent la fête de Noël. Ceci dit, la venue du roi des rois, c'est certainement pas païen. Et on devrait se réjouir que Jésus est venu nous sauver. Et c'est ça qu'on fait dans le temps de Noël. Bon, est-ce qu'on retrouve des coutumes chrétiennes, par contre, ou qui nous ont aidé à fonder cette grande fête, autre que le fait que Jésus est venu?
Ben, dans mes recherches, je n'ai pas retrouvé aucune coutume chrétienne associée à la fête de Noël. Les historiens ils ont pu retracer dans les diverses religions répandues dans le vaste empire romain des coutumes qui sont associées à Noël présentement. Pour vous donner quelques exemples, comme la bûche de Noël.
Oui.
La bûche de Noël était vénérée parce que sa rondeur rappelait vaguement la forme du disque solaire renaissant.
Okay.
C'est ça que j'ai trouvé dans les recherches. Le sapin de Noël aussi était un symbole de fertilité dans les religions gothiques parce qu'il ne perd jamais son feuillage.
Okay.
C'est sûr qu'on peut christianiser ces images-là puis dire, bon, ben, au lieu de voir le sapin comme une fertilité, on peut voir le sapin comme un signe de vie éternelle, dire qu'il garde tout le temps son feuillage. Hein, que on peut transformer ces arguments-là, en fin de compte.
Ouais. Il y a des gens, par contre, qui vont dire, oui, mais pourquoi on ferait ça, là? Pourquoi on prendrait quelque chose de païen et le rendre chrétien? Bien, savez-vous pourquoi? Je vais vous dire une des choses. Je vais vous encourager à aller écouter l'enseignement que j'ai donné hier qui s'intitule « La naissance du roi ». Vous allez voir, j'ai été assez passionné dans ma défense de Noël parce que je crois que c'est important. Parce que vous savez, les enfants de Dieu, souvent, là, on veut tellement honorer le Seigneur et ça, c'est louable, c'est merveilleux. Mais des fois, on ne calcule pas le prix dans nos réactions parce que des fois, on va s'opposer aux choses qui sont fêtées et puis on va s'exclure et on va passer à côté des opportunités que le Seigneur nous donne pour briller. Et puis, nous, par exemple, on fête dans le temps de l'Halloween. On ne fête pas l'Halloween parce qu'on réalise que c'est une fête macabre où on célèbre la mort. Nous, on est les enfants de Dieu. Ceci dit, comme j'ai expliqué à l'Assemblée, le 31 octobre, là, moi, je crois qu'on peut célébrer Jésus même le 31 octobre. On peut croire que chaque journée de l'année est dédiée au Seigneur. Parce que c'est écrit dans la parole, « Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Donc, si je peux réaliser, bon, 365 jours par année, je devrais louer mon Dieu. Et je devrais saisir toutes les opportunités. Donc, si le 31 octobre, les gens vont célébrer Satan, comme l'église de Satan aux États-Unis, c'est une fête officielle pour eux, bien moi, je réalise que le 31 octobre n'appartient pas à l'église de Satan, mais moi, je peux louer Dieu le 31 octobre également. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans notre église, on a fait une fête pour les enfants. Comme ça, il manque rien, sauf on a enlevé tous les aspects macabres et la mort, tout ça. On a célébré la vie et on a prêché l'évangile aux enfants cette journée-là. On a donné des bonbons. Les enfants mangent des bonbons. Est-ce que c'est un péché de manger des bonbons? Certainement pas.
On ne s'est pas senti moins spirituel pour autant.
Non, non. Et les enfants ne se sentent pas privés. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu que les enfants se sentent privés. Ah. Donc, ils ne se sentent pas privés aucunement. Mais ce qu'on a fait, on a saisi l'opportunité pour prêcher Jésus aux enfants inconvertis qui ne font pas partie d'une famille chrétienne. Donc, ce que l'ennemi voudrait qu'on fasse, c'est qu'on se cache dans notre sous-sol, qu'on ferme les lumières dans le temps de l'Halloween. Comme moi, j'ai été élevé dans une église où on me disait, ben, fermez les lumières pour ne pas fêter, pour ne pas célébrer cette fête-là. Et je comprends le raisonnement. Mais moi, je crois que Dieu nous appelle à briller chaque jour de l'année. Donc, aller me mettre dans le fin fond de mon sous-sol, dans la noirceur, je ne pense pas que c'est vraiment une façon de briller.
C'est pas brillant.
Non, c'est pas brillant. Donc, ce qu'on a fait cette année, encore une fois, on a fait cette belle fête. Les enfants entendent parler de Jésus et on prend la citrouille. On va vider la citrouille. On représente le contenu de la citrouille comme étant le péché. On vide tout ça et puis on dit que le Seigneur Jésus peut nous libérer nos péchés. Et là, celle qui a fait la présentation aux enfants, elle a taillé les lettres de Jésus, okay, pour épeler le nom de Jésus. Elle a mis une chandelle et elle a expliqué aux enfants, avec cette citrouille, ben, Seigneur Jésus, on peut prendre cette illustration pour montrer que Jésus peut briller dans nos vies si on enlève les péchés. Et puis vraiment, c'était très, très bien. Donc, j'ai posé la question à l'Église. Est-ce que la citrouille appartient à Satan? Non. La citrouille, c'est Jésus qui l'a créée. Donc, est-ce qu'on devrait dire, ben là, on n'aura jamais de citrouille chez nous parce que ça nous fait penser à l'Halloween? Non, on devrait prendre la citrouille et la racheter parce qu'on a été racheté de la malédiction. Moi, je crois, le Satan, il n'y a pas aucun droit sur la citrouille. ça m'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, vous allez voir, ben, je suis un petit peu différent peut-être comme pasteur, mais moi, je pense que le diable, pendant trop longtemps, il a régné dans notre monde et on reprend notre territoire. Et puis la citrouille, si je veux manger la tarte à citrouille, je vais en manger. Si je veux avoir une belle citrouille chez moi dans le temps de l'Halloween, il n'y a pas de problème. Mais au lieu d'avoir une face de monstre dessus, je peux écrire Jésus. C'est et ça. Puis laisser briller la lumière. Là, je parle de l'Halloween, mais on parle de Noël aussi. Mais juste donner la philosophie, on est tellement des fois... On réagit d'une mauvaise façon, je crois, et on passe à côté des opportunités que Dieu en réserve pour nous. Donc, tu es en train de me dire, Yvan, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de coutumes chrétiennes qui entourent la fête qu'on fête aujourd'hui, la fête de Noël.
Je pourrais vous parler un peu du Père Noël aussi.
Oui, OK.
Saviez-vous que le Père Noël, ça a été, ce personnage a été inventé au 19e siècle?
Mais en fait, excuse, Yvan, oui. Mais c'est pas un vrai personnage, Saint Nicholas, comme on dit en anglais, Saint-Nicolas.
Ouais, je vais en venir à ça.
OK.
Il a été représenté pour la première fois en 1868 dans des publicités de Coca-Cola. Ah. On a tenté de le relier à l'austère Saint-Nicolas, justement, du Moyen-Âge, mm-hmm. parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait Saint-Nicolas au Moyen-Âge, puis semble-t-il qu'il faisait des cadeaux aux enfants.
Oui.
Mais pourtant, il n'y avait rien d'un gros joufflu dans un habit rouge et blanc. Mm-hmm. Puis, il n'habitait pas au Pôle Nord non plus.
Il ne buvait pas de Coca-Cola non plus.
Il ne buvait pas de Coca-Cola, puis il ne se promenait pas sur un traîneau volant tiré par des rennes. C'est ça, tout le folklore qui a été rajouté.
Ouais, ouais.
Mais le fait que Saint-Nicolas avait donné des cadeaux à l'époque aux enfants, ils ont fait un lien avec ça. Là. On voit le rapprochement qu'ils ont fait.
Oui.
Il y en a qui ont conclu que la fête de Noël déplaisait à Dieu et que les chrétiens devaient s'en assonner, comme tu as dit, mais oui. C'est pas ça que je pense personnellement. Je vais te rejoindre là-dessus. Moi, je vois que c'est pas l'observation d'une fête religieuse qui va nous approcher de Dieu ou nous en éloigner. Mm-hmm. On peut lire dans Colossiens 2,16 que personne de vous ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mm-hmm. C'était l'ombre à venir, la réalité est en Christ.
Oui.
Ça, on peut le reconnaître. Ça veut dire que si quelqu'un mange ou boit ou fait une fête, on n'a pas à juger par rapport à ça.
Et ça, ce verset-là...
Autant d'un côté ou de l'autre.
Oui, absolument. Et en même temps, ce verset-là répond à des fausses objections qu'on peut avoir d'un certain courant dans l'Église où les gens disent on doit observer le sabbat, OK, par exemple, le samedi. Mm-hmm. Mais ici, justement, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Je pense que c'est assez clair. C'est clair comme l'eau de roche. Donc, on comprend quand on est en Christ que notre sabbat, c'est en Christ, vraiment, que Jésus a tout accompli. Et là, comme ça dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, donc on se repose en Christ. Et le sabbat qui a été créé pour l'homme, c'est justement ça. C'était l'ombre de ce repos spirituel qu'on retrouve dans le Seigneur Jésus.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Puis je vais revenir sur un aspect que tu avais mentionné dans ton message hier. Tu nous avais dit que Dieu nous avait tout donné, ce qu'il avait créé sur la terre. Mm-hmm. Tout lui appartient. J'avais bien aimé quand tu avais cité le psaume 115, verset 16, qui disait que les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme.
Oui.
On lit aussi dans Corinthiens que tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Mm-hmm. Tout est à nous, enfin, tout est là pour nous. On n'a pas à se priver de rien de ce que Dieu a fait sur la terre, que ce soit les citrouilles, que ce soit les arbres de Noël. Ou,
Ah bien, ça, je dois dire là. Aussi, Yvan, c'est comme la citrouille. J'ai parlé de la citrouille, mais le sapin de Noël, là, ou comme les fleurs rouges, les poinsettias ou blanches, dépendamment de ce que vous préférez. Mais je me dis, Jésus a créé ça aussi. C'est Seigneur, Jésus a créé et l'agent de la création. Mm-hmm. Puis on voit, bon, moi, j'aime ça avoir des fleurs rouges chez nous.
Ben
okay? Je trouve que c'est Dieu qui a créé ça. Ben, j'aime ça avoir des belles fleurs rouges. Est-ce qu'on peut avoir un beau sapin puis ça sent bon dans notre maison? Mm-hmm. Il dit merci Seigneur Dieu parce que c'est toi le créateur t'as fait cet arbre qu'on peut avoir dans notre maison. Moi, je trouve ça c'est beau. C'est quelque chose de beau.
Tout à fait. Moi, il y a un verset qui est vraiment pertinent par rapport à tout ce qu'on apporte. C'est dans 1 Corinthiens 10:31. Il dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Mm-hmm. » Ça, on peut en mettre des choses là-dedans.
Ouais.
Même la fête de Noël. Faites tout pour la gloire de Dieu.
Ouais, ouais.
C'est ça, c'est vraiment ça le principe. Là. Le principe de la vie chrétienne, c'est pas un principe d'interdiction de ne pas faire ceci, pas faire cela.
C'est ça.
Mais d'avoir une mentalité de faire tout pour la gloire de Dieu.
Oui.
Donc, qu'on mange de la dinde ou qu'on boive du lait de poule ou qu'on fasse le 25 décembre ou qu'on le fasse une autre journée, on peut le faire pour la gloire de Dieu en célébrant la venue de Jésus.
Ouais.
Même si on sait que Jésus est venu au mois de septembre, ça ne nous empêche pas de le célébrer aussi le 25 décembre.
Parce qu'en fait, le Seigneur nous appelle à le célébrer à chaque jour de l'année.
Tout à fait. C'est comme la mort puis la résurrection de Jésus, on le célèbre à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur.
C'est ça.
Il ne nous dit pas « Fais ça une fois par année », il nous a dit « Chaque fois que vous faites rappeler la mort du Seigneur jusqu'à temps qu'il revienne. Donc, ouais, on peut célébrer la naissance de Jésus en septembre. Mm-hmm. On le fera au mois de décembre aussi. Puis je trouve que c'est une bonne raison de le faire au mois de décembre parce que les gens sont disposés à entendre parler de Jésus.
Exactement,
à cette époque-là.
Moi, je pense que ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est vraiment, si on parle de Noël, bon, il y en a des gens qui vont dire, oui, mais dans ma famille, c'est vraiment super mondain. Les gens boivent, ils fument. J'aime pas ça aller dans ma famille dans ce temps-là parce que je me sens vraiment mal à l'aise. Mais vous savez, dans Éphésiens 5, verset 11, dans la Bible des peuples, ça nous dit « Ne vous rendez pas complices des œuvres des ténèbres, car on n'y gagne rien. Dénoncez-les plutôt. » Ou dans la Bible Osterwald, ça nous dit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. » Donc, moi, je crois que ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est pas embarquer avec les gens dans leur péché, boire et fumer et se saouler. Non, Dieu nous appelle pas à être vulgaire, mais Dieu nous appelle à briller pendant ce temps-là. Donc, si notre famille se rencontre dans le temps de Noël, et c'est peut-être la seule fois aussi où vous allez voir votre famille dans le temps de Noël. Donc, c'est vraiment une opportunité d'être là et de briller. Et je crois que le Seigneur nous appelle justement à briller. Dans Éphésiens 5, le même chapitre, mais au verset 16, ça dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et peut-être, comme je vous dis, peut-être c'est la seule journée de l'année où vous allez voir votre famille. Donc, rachetez le temps, gagnez cette opportunité pour prêcher Jésus. J'aime aussi la Bible du Sommeur, ça dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Ou dans français courant, ça dit « Faites un bon usage de toute occasion, qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Donc, on veut faire bon usage de ces occasions qui sont là. Si c'est le temps de l'année où tout le monde parle de Jésus, ou ben, on en parle beaucoup du Père Noël, mais quand on en parle, c'est là.
Dans il peut y avoir une ouverture spirituelle à ce temps-là, à cause de notre tradition dans laquelle on a été élevés. Ils vont voir la crèche des fois. C'est même ça. Si le Père Noël a pris l'avant-plan, quand même, il y a un peu de Jésus quelque part.
Absolument.
Ça fait que si tu parles de Jésus, là, c'est comme pas incongru quand même. Ça peut fitter dans le décor, si on peut dire.
C'est ça. Et même quand on se promène dans les magasins, on entend des chants de Noël, on entend le nom de Jésus, le divin enfant. Donc, ben, ça nous ouvre une porte.
C'est ça.
Donc,
Jésus, il faut complètement évacuer du décor. Même s'il est rendu en arrière-plan, ça peut quand même nous faire une porte d'entrée pour le présenter.
Oui, absolument.
On pourrait parler un petit peu aussi des cadeaux. Il y en a qui ont essayé de justifier l'échange de cadeaux à cause du fait que les rois mages avaient amené des cadeaux à Jésus. Oui. Mm-hmm. En passant, tu nous avais donné des bonnes explications hier pour nous dire que c'était pas des rois et c'était pas des mages. Mais ça, on s'étendra pas trop là-dessus quand même, mais c'est intéressant. Mm-hmm. Mais je veux surtout souligner le fait que les cadeaux, ils étaient donnés à Jésus.
Oui.
Et aujourd'hui, les gens se donnent des cadeaux entre eux, mais ils ne pensent pas de donner de cadeaux à Jésus. Mm-hmm. Puis je trouve que ça serait une excellente idée de leur dire que cette journée-là, ça serait bon qu'ils se donnent en cadeau eux-mêmes au Seigneur pour son service. Parce que Jésus n'a pas hésité à se donner un cadeau pour nous.
Oui.
On lit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mm-hmm. C'est un cadeau extraordinaire pour qu'on ait la vie éternelle, en fin de compte.
Mm-hmm.
Si on reçoit son amour puis qu'on goûte au bonheur qu'on a reçu d'avoir la vie de Jésus en nous, à nouveau, on peut donner aussi notre vie à Jésus. Mm-hmm. Puis on va éprouver un grand bonheur. Autant que Dieu a été heureux de donner son fils pour nous, on va être heureux de donner notre vie à lui. Ouais. C'est une joie, là.
Mm-hmm.
On voit, Noël, comment on peut être joyeux de se donner des cadeaux mutuellement. Ouais. Mais quand on se donne à Dieu, ça, c'est la plus grande joie qu'on peut expérimenter.
Ouais, absolument, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, justement, je pensais à ça cette semaine, comme je me préparais pour la prédication de dimanche. Ce verset-là, Jean 3,16, c'est un verset qu'on apprend tous à l'école du dimanche. Et pourtant, c'est ça, l'histoire de Noël, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. C'est-à-dire que si Dieu a donné son fils, nous aussi, on peut se donner à Dieu en retour et puis donner aussi, parce que dans la parole, ça nous dit, si on donne, on va récolter aussi. Et Dieu nous appelle à être des donateurs, à être remplis d'amour, donner de l'amour, donner des cadeaux aussi. C'est pas mauvais, ça, donner des cadeaux. En fait, c'est une façon d'exprimer la bénédiction de Dieu dans nos vies et faire en sorte que les gens ressentent l'amour de Dieu. Et c'est pas obligé d'être très cher. Des fois, les gens pensent, Noël, j'aime pas trop ça parce que là, c'est un temps où je vais m'endetter. Non, Dieu ne nous appelle pas à s'endetter. Il y a toutes sortes de façons où on peut bénir les gens aussi. Des fois, juste inviter quelqu'un à un repas, partager un repas à la maison, surtout dans le temps de Noël, il y a des gens, des fois, qui détestent ça parce qu'ils se disent « Moi, dans ma famille, c'était vraiment horrible. Je ne veux pas me rappeler de ces mauvais souvenirs-là où je me sens seul dans le temps de Noël. » C'est une opportunité pour nous d'être des témoins du Seigneur et dire « Écoute, viens chez moi, telle date, j'aimerais ça avoir un beau souper avec toi. » Et puis, c'est une façon de donner ça aussi, de donner notre temps, donner un repas, que la personne se sente spéciale. Puis je pense que si on peut changer le climat un peu spirituel où les gens vont décider, les enfants de Dieu vont décider de vraiment aimer les gens dans le temps de Noël, moi, je crois qu'on peut récolter plusieurs âmes pour Jésus dans ce temps-là. Absolument.
Ça peut être très joyeux, en fin de compte, comme époque. Quand on donne avec amour, ça produit la joie dans notre cœur.
Oui, absolument.
Tu sais, c'est là qu'est toute la différence. Puis les gens ont besoin de nous voir joyeux aussi dans cette époque-là. Mm-hmm. Parce que souvent, les chrétiens, ils vont, projeter une image triste, austère, tu sais. Oui. De dire, vous n'avez pas le droit d'avoir du plaisir, tout ça. Mais, mais non, c'est pas vrai du tout, cette image-là. C'est un reliquat, on peut dire, de l'ancienne religion.
En fait, là, les gens les plus heureux sur la terre, c'est les chrétiens.
En effet.
Mais les chrétiens qui se laissent remplir de la joie du Seigneur. Parce qu'il y en a des fois, c'est vrai. Des fois, les gens, il y a certains chrétiens qui sont religieux puis qui ne démontrent pas nécessairement la joie de l'Éternel. Mais les vrais enfants de Dieu qui se laissent remplir de cette joie surnaturelle, bien, sont super heureux parce qu'on a l'assurance de notre salut. On sait qu'on s'en va au ciel, on va être avec le Seigneur pendant l'éternité. On a vraiment une raison de se réjouir. Et puis en plus, moi, je sais que... moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. On n'a jamais eu d'alcool dans notre famille. Sauf que dans le temps de Noël, il n'y avait pas des personnes saoules. Il n'y avait pas de bagarre. Vraiment, ça allait bien. On avait même des prédications dans le temps de Noël chez nous. Sauf que c'était vraiment spirituel. Puis on avait des cantiques de Noël. C'était vraiment béni. Et pour moi, ça a vraiment été un témoignage dans ma vie qu'on était heureux. Et on n'avait pas besoin d'alcool pour être heureux. Sauf que je peux vous dire, pour les gens dans le monde, il y en a souvent qui disent « Ah ben on a beaucoup de party, on a beaucoup de fun dans notre party. » Mais souvent, c'est parce qu'ils se sont comme enivrés. Et puis, c'est pas une joie véritable. Si on est obligé de s'enivrer pour être heureux et même relax, à quelque part, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Donc, si on est capable d'avoir autant de plaisir, rire comme des fous et se réjouir, bien, et sans alcool, je suis pas en train de dire que si vous prenez... un verre en modération, là, que c'est mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis juste en train de dire, on n'est pas dépendant sur autre chose pour nous amener la joie du Seigneur, parce qu'on l'a en Jésus.
Ben, c'est magnifique que tu nous amènes ce témoignage vécu-là, parce que là, on déborde la théorie.
Oui.
On peut amener des théories des fois, puis dire, regardez, la théorie, c'est ça, c'est beau, mais là, toi, tu l'as vécu.
Oui.
Et tu peux nous manifester justement le fait qu'il y a moyen de vivre des fêtes de Noël d'une manière réjouissante, puis qui laisse des bons souvenirs.
Oui.
Donc, c'est un encouragement pour les jeunes qui ont des familles, des jeunes enfants, tout ça, de dire, oui, il y a moyen vraiment de vivre une fête de Noël qui va laisser des bons souvenirs aux enfants.
Absolument, ben oui. Sauf que Yvan, tu nous disais qu'il y avait des coutumes assez païennes, on a vu ça ensemble. Est-ce qu'il y a encore des arguments anti-Noël que tu connais, que tu penses qu'on devrait adresser aujourd'hui pour aider nos
auditeurs? Je peux en nommer quelques-uns, en fin de compte, puis vous allez pouvoir juger vous-même de la pertinence de ces arguments-là. Un des arguments qu'on nous apporte des fois, c'est de dire que Jésus a demandé de célébrer sa mort et non sa naissance.
OK, oui.
Bon, ça, c'est une approche qui est plus ou moins forte, parce que je trouve qu'on ne peut jamais se baser sur ce qui n'a pas été dit dans la Bible pour dire qu'il ne faut pas le faire.
Ouais, bâtir sur des silences, c'est assez dangereux.
C'est dangereux, ça. Bâtir une doctrine ou des interdictions sur un silence, là, c'est tout simplement peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler, parce que souvent, les épîtres étaient écrites en fonction des problèmes qui se présentaient. Donc, si ce n'était pas un problème qui se présentait comme tel de fêter la naissance de Jésus, il n'y avait pas nécessairement besoin d'en parler.
Et en fait, il y a plein de choses que la Bible ne dit pas. Par exemple, comme Marie, quand elle a accouché, elle avait probablement une sage-femme avec elle. Et tu sais, j'en parle là, mais on va dire, mais c'est pas écrit dans la Bible. Il y a plein de choses qui ne sont pas écrites, mais qui sont juste des choses sous-entendues. Par exemple, comme aujourd'hui, si on dit, bien, je vais t'appeler, admettons, Yvan, je vais t'appeler à midi aujourd'hui, OK? Mais là, je ne dirai jamais, mais je vais t'appeler avec un téléphone et je vais signaler en appuyant des touches. Yvan, je vais signaler et puis il va y avoir un courant qui va passer
les
fils téléphoniques. Et puis, je ne vais pas préciser ces choses-là parce que c'est pour nous, c'est sous-entendu, c'est certain, ça va arriver. Ou je vais me rendre chez toi. Je vais embarquer dans mon véhicule et mon véhicule a 4 roues, Yvan. J'ai un siège dans mon véhicule et je vais me rendre comme ça et je vais mettre de l'essence dans mon auto pour me rendre chez toi. Il y a des choses qu'on ne précise pas Mais ils sont là, c'est juste, c'est certain. Et puis, à l'époque de Jésus, il y a plein de choses. Des fois, on peut lire le récit de la nativité, puis on s'imagine toutes sortes de choses parce qu'on est détaché culturellement. Mais il y a plein de choses qu'on croit aujourd'hui que finalement, c'était pas ça du tout. Et il y a des choses aussi, comme on dit, les silences qui sont là. Des fois, les gens vont bâtir des doctrines sur des silences. Je trouve ça épouvantable. On devrait bâtir des doctrines sur ce que le Seigneur nous montre
sur clairement. Sur la révélation, en fin de
compte. Oui, c'est ça.
C'est la révélation que notre foi est basée dessus.
Oui.
Puis on voit une grande différence aussi entre les religions et le christianisme.
Oui.
Parce que les religions sont souvent très pointilleuses. Ils vont déterminer chaque détail, quelle distance que tu as le droit de marcher telle journée, comment que tu dois t'habiller et tout. Parce que justement, les gens ont comme besoin de se faire tout expliquer. Mais dans la vie chrétienne, on est appelé à la liberté. On est appelé à marcher selon l'Esprit.
Mm-hmm.
Que si le Saint-Esprit nous inspire à souligner la fête de Noël d'une manière particulière, allons-y de soi. T'sais.
Oui, absolument.
S'il nous inspire à ne pas le faire, pas plus grave que ça.
C'est
l'important, c'est de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est ça qui est la liberté. C'est ça qui est merveilleux. Mm-hmm. On devient chrétien, on est appelé à la liberté.
Absolument. Et par contre, on est appelé également au discernement. Mm-hmm. Et c'est là où, des fois, on a de la difficulté parce que les gens disent « Ah, bien moi, si j'étais dans une religion, au moins, on me dirait comment penser. » Et c'est ça, c'est vrai. Quand on est dans une religion, on est obligé de suivre le credo de cette religion-là parce que le moment qu'on débarque un petit peu, bien là, on peut se faire excommunier. Mais la parole de Dieu ne nous présente pas une religion, mais nous présente une relation vivante avec Jésus. Donc, quand on a une relation, c'est à nous de lire la parole de Dieu. On demande à l'Esprit de Dieu de nous révéler sa parole. Mm-hmm. Et vous savez, dans la parole, dans Romains 8, verset 14, ça dit « Tous ceux qui sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, c'est ça notre responsabilité. Si on est un enfant de Dieu, c'est à nous de discerner la volonté de Dieu en lisant sa parole et en priant. Et l'Esprit de Dieu va nous donner soit la paix ou l'absence de la paix, dépendamment des situations. Mm. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, je peux célébrer Noël avec une conscience pure devant Dieu, sachant que moi, je ne fais rien de païen, mais je célèbre la naissance du roi des rois qui est venu me racheter. Et en même temps, je saisis cette occasion-là pour prêcher Jésus aux gens qui m'entourent et célébrer sa naissance avec des cantiques. Oui, je peux boire du lait de poule. J'aime ça, c'est engraissant, mais une fois par année, on en boit. Je mange de la dinde et je célèbre les bontés de Dieu dans ma vie. Il n'y a rien de péché là-dedans. Au contraire, on peut glorifier Dieu dans cette fête.
Donc, en effet,
ouais.
On va passer maintenant à un deuxième argument.
Okay.
Les apôtres et les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. La fête de Noël a été instituée au 4e siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est un argument qu'on a déjà, je pense, quand même développé en long et en large. On sait que, historiquement parlant, en effet, les premières manifestations de la fête de Noël, ça a été vers le 4e siècle après Jésus-Christ. Mm-hmm. Mais comme on a dit tantôt encore, même s'il n'y a aucun passage des Écritures qui mentionne les apôtres qui fêtaient la naissance de Jésus, ça ne veut pas dire qu'ils ne la fêtaient pas ou qu'ils ne la soulignaient pas d'une manière quelconque. Mm-hmm.
C'est ça.
On peut très bien s'imaginer ça. Si nous-mêmes, on a le goût de la fêter, la naissance de Jésus, pourquoi que les premiers chrétiens n'auraient pas eu le goût de la fêter?
Absolument. Mais aussi, tu sais, Yvan, je vais lire un texte en parole là, dans Luc 2, versets 10 à 14. Ici, ça nous parle des bergers qui ont eu la visitation d'un ange. Mm-hmm. Et puis ça dit ici, mais l'ange leur dit, en parlant aux bergers, là, c'est les bergers qui parlent. Pardon, l'ange qui parle aux bergers, ça dit, l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Déjà là, ça l'annonce quelque chose de positif. « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Donc, moi, je vois ça, c'est un party. Quand les anges se présentent, et moi, je suis certain que pendant des siècles, les anges attendaient à ce jour merveilleux quand le Messie viendrait. Ils attendaient sûrement là, la rédemption des hommes. Et puis là, on voit une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Et là, on voit ici un party. Moi, pour moi, là, c'est une célébration, certainement. Mm-hmm. C'est digne d'une fête. Et puis, si on considère que les anges dans le ciel vont célébrer la nouvelle naissance d'une seule personne, à plus grande raison aussi qu'on peut croire qu'ils ont dû célébrer la venue du roi des rois. C'est que moi, je dis « c'est super ça ».
Ça ne serait pas étonnant de penser que même à chaque année, les anges dans le ciel se rappellent cette époque-là où Jésus est né, qu'ils soulignent d'une manière quelconque. Je ne serais pas étonné de ça, même si la Bible n'en parle pas. Mm. C'est dans leur nature de célébrer.
Oui.
Ça fait que s'ils ont une occasion de célébrer, d'après moi, ils ne doivent pas gêner pour célébrer.
Absolument. Oui, c'est ça.
Oui, en fin de compte, y a l'autre argument qu'on apporte souvent aussi, c'est de dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais ça, on l'a déjà élaboré beaucoup à ce sujet-là. C'est vrai que la Bible ne mentionne pas sa date, mais c'est pas une raison de ne pas le souligner. Justement, s'il ne l'a pas mentionné, la date, c'est signe qu'on peut la souligner n'importe quelle journée.
C'est ça.
Ben puis oui, on a vu que le 25 décembre, c'était une bonne occasion de le faire à cause de l'environnement que la disposition des gens à entendre parler de Jésus.
Puis, vous savez, en plus, comme dans 1 Corinthiens 9, 22, pardon, l'apôtre Paul, il a dit « Je me suis fait tout à tous ». Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Sauf que la mentalité ou la vision de l'apôtre Paul, c'était vraiment de saisir ces opportunités-là et de s'adapter. Sauf que si tout le monde est en train de fêter Noël, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas s'exclure et dire non, écoute, il y a du paganisme là-dedans. Puis non, ce qu'on veut faire, c'est bâtir des ponts entre nous et les païens.
Exact.
C'est ça qui est le fun, c'est de bâtir des ponts. Donc, si les gens vont à la messe, admettons, ben nous, on ne va pas à la messe parce qu'on est né nouveau et puis c'est pas notre pratique. Mais on peut comprendre, bon, s'il y a ces gens-là qui vont à la messe, ils vont parler de Jésus, ils vont entendre parler de Jésus, ben nous, on va aussi bâtir des ponts. Et puis, s'ils mentionnent le nom de Jésus, ben nous, c'est ça, on saute sur l'occasion. Et même, on peut ouvrir la porte et dire, ah, ben vous êtes allé à votre messe de minuit, ah, comment ça s'est passé? Et puis là, ils vont peut-être nous dire, ah, ben là, notre tradition, ça plate. Là. Il y en a des fois qui vont nous dire ça. Peut-être d'autres vont dire, ah, c'était très beau, il y avait des beaux chants. Puis, ah, super. Et là, ça nous ouvre la porte pour dire, ah, ben nous, en tout cas, on a vécu un bon moment aussi dans la présence de Dieu, tu sais, de parler de Jésus. Et là, moi, je crois que si l'apôtre Paul vivait dans notre temps aujourd'hui, il ne dirait pas, OK, les boys, là, on ne fait rien, là, allons se cacher, ils ne faisons rien. Mais non, on va saisir l'opportunité qui est devant nous.
Ouais, le meilleur exemple, c'est encore Jésus. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait à Jésus? Il allait manger avec les publicains, tout ça.
Ouais.
Et on voit l'attitude des gens religieux qui venaient...
Qui pointaient du doigt, là.
C'est ça, ils venaient pointer du doigt, puis... Jésus lui a dit au contraire, non, c'est les pécheurs qui ont besoin d'entendre parler de la justice.
Oui.
Puis on sait que les occasions des repas, c'est une très bonne occasion de parler. Les gens sont plus ouverts durant les repas. Et Jésus participait beaucoup aux repas, justement, pour pouvoir enseigner en même temps, puis apporter l'Évangile. Puis Jésus nous donne un autre exemple aussi de pharisiens qui jugeaient les autres. Hein. Mm-hmm. Ça fait qu'on voit vraiment que cette attitude de jugement-là ne plaît pas à Dieu.
Non,
il faut faire attention en tant que chrétien de ne pas tomber dans le même panneau, en fin de compte.
Je pense que la chose importante pour nous, pour les chrétiens, c'est de s'abstenir des choses qui sont mauvaises. C'est ça que Dieu nous appelle à faire, de s'abstenir. C'est que s'il y a des choses qui sont dans le domaine du péché, non, c'est sûr, on ne va jamais suivre ce courant-là. On va suivre le courant de l'Esprit-Saint. Donc, c'est un courant saint. Et voilà, moi, je crois célébrer la naissance du roi des rois qui est venu nous sauver, nous racheter. C'est une vraie raison merveilleuse pour célébrer. En tout cas, j'en trouve pas la plus grande raison, là.
Moi, je pourrais voir quelqu'un qui éviterait ces fêtes-là s'il avait l'habitude de se saouler, disons, lui-même.
Mm.
Et que pour lui, ça pourrait être une occasion de chute.
Mm-hmm.
Je pourrais peut-être dire, ouais, peut-être que dans ton cas, tu serais mieux de t'abstenir d'aller là, tu sais, jusqu'à temps que tu sois bâti assez dans ta foi.
Ouais.
Parce qu'on voit que dans la Bible aussi, qui dit que de ne pas se mettre dans des occasions de chute.
Ouais, c'est
si on voit que pour quelqu'un, là, on pourrait comprendre dans ce cas particulier-là, mais ça ne serait pas un cas de jugement de dire non, c'est pas correct, tu n'as pas d'affaire à aller là.
C'est ça.
Mais si pour toi, à chaque fois que tu allais là, tu te saoulais puis tu sens que tu vas encore te saouler, là, c'est sûr que tu es peut-être mieux de t'abstenir dans
c'est
ce temps-là.
Si tu es trop faible dans la foi, là,
exactement. C'est un autre.
Oui.
Dans cette situation-là, on pourrait dire que ça serait sensé de s'abstenir, mais c'est pas une question de jugement de dire que c'est pas correct d'y aller. Là.
C'est ça. Parce que le Seigneur nous appelle à être dans le monde et de briller. Là, c'est
exactement.
Sûr. C'est sûr.
Puis là, si tu te mets à te saouler, ben là, c'est sûr que tu ne brilleras pas. Là.
C'est sûr que non. C'est sûr.
C'est sûr. Il y a un quatrième argument que les gens apportent des fois de dire qu'on a déjà souligné un peu que on peut pas approuver. Dieu approuve pas Noël à cause des origines païennes de la fête. C'est évident que Dieu n'est pas se glorifié de la manière que les gens célèbrent Noël aujourd'hui. Ça, faut pas se le cacher. Mais à quoi qu'on peut s'attendre d'une civilisation qui a mis Dieu de côté? C'est normal. On peut pas s'attendre que le monde va célébrer Noël d'une manière qui va glorifier Dieu.
Non.
Mais comment Dieu pourrait-il pas approuver ses enfants qui décident de souligner de manière particulière la venue de Jésus?
Ouais.
C'est à nous, les chrétiens, de mettre la lumière à la place des ténèbres.
Exactement, oui.
C'est à nous, les chrétiens, de récupérer cette journée puis de célébrer le don de Dieu aux hommes quand il a envoyé son Fils unique sur la terre.
Oui.
Il y a moyen de récupérer ça, comme tu disais si bien. Je pense que c'est bon de le répéter encore. Là, mm-hmm. C'est mais, pas parce ouais. que le diable s'en est servi pour, en fin de compte, le péché, que nous, on ne peut pas dire non, on va plutôt s'en servir pour glorifier Dieu.
C'est ça, c'est comme la télévision. Il y a des gens qui ont dit, ben là, on ne doit pas avoir de télévision dans notre maison parce qu'il y a mm-hmm. des choses contraires à Dieu. Oui, mais il y a également des très bonnes choses à la télévision où on prêche Jésus. Ça fait qu'il faut faire la part des choses, il faut bien discerner. Et comme pour moi, dans ma vie, on a célébré Noël toute ma vie depuis que je suis au monde. On a toujours célébré la naissance du roi des rois. Et pour moi, c'était toujours clair. Grandissant dans une famille chrétienne, ça a toujours été clair qu'on célébrait Jésus et pas les cadeaux. Ça fait que ce qu'on faisait, puis quand j'étais plus jeune, c'est sûr, je trouvais ça peut-être plus pénible, mais j'ai toujours aimé ça. Parce que quand on est jeune, on a hâte de développer les cadeaux. Là. Mais je me souviens, mes parents me disaient, OK, là, on va écouter un message de Noël. On avait une lecture de la parole de Dieu sur le récit de la nativité. Et puis, des fois, on écoutait, je me souviens, dans ma jeunesse, on écoutait un disque en vinyle de Rex Humbard. Je ne sais pas si tu connais Rex Humbard.
Je suis assez vieux pour connaître Rex Humbard.
Oui, c'est ça, c'est le premier prédicateur à la radio, si je me souviens bien, là, ou à la télévision, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, Rex Humbard, c'était un vieux de la vieille. Et puis, on écoutait son histoire de Noël. Il nous racontait toute l'histoire de Noël. Puis, on écoutait ça ensemble. Là, on avait des chants chrétiens aussi. Et on avait peut-être un temps de prière aussi. Et par la suite, on développait les cadeaux. Donc, pour moi, c'était très, très clair. On est en train de s'échanger des cadeaux dans un moment de réjouissance, se rappelant que Dieu nous avait tellement aimés qu'il nous avait envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, Jésus a toujours fait partie de notre Noël. Et là, quand on avait toute la famille, la parenté qui venait, on avait un grand repas, on partageait un repas, et on le fait encore d'ailleurs. Et là, des fois, on avait un invité, comme j'ai mentionné dans mon message, le frère Bouchard. Certains d'entre vous, vous le connaissez, c'est un vieux de la vieille aussi, un pionnier de l'Évangile. Et puis là, il nous prêchait le message de Noël. Et puis, on avait des cantiques dans la soirée, on se réjouissait. C'était vraiment chrétien, et c'est encore chrétien aujourd'hui, dans le sens où on souligne vraiment la venue de notre Sauveur. Donc, pour moi, quand j'entendais parler des gens contre Noël, je me disais, mais comment est-ce que Dieu pourrait être vraiment déçu de notre célébration, de sa venue? Tu sais, pour moi, c'était comme, je ne comprenais rien. Mais là, quand j'ai commencé à découvrir un petit peu les racines païennes, là, je me suis dit, OK, bon, il y a des choses, c'est vrai, peut-être qui sont mauvaises, mais si Dieu connaît mon cœur, et puis il sait que je ne suis pas en train de louer le Dieu du soleil, ça n'a aucunement rapport dans ma vie. Mm-hmm. Dieu connaît mon cœur. Et pareillement, si je dis, bon, on se rencontre lundi à 10h, je ne suis pas païen pour autant non plus. Il faut faire la part des choses et Dieu connaît nos cœurs. Mais il y a des gens qui sont légalistes, qui mettent des péchés où il n'y en a pas non plus et puis qui siphonnent la joie du monde. Je veux pas faire ça, moi.
Non, sûrement pas. Oui, puis même, il y a des aspects qu'on peut souligner en particulier sur la fête de Noël, comme le côté de la paix.
Oui.
Ouais? Mm-hmm. Parce qu'à la naissance de Jésus, les anges sont venus annoncer la paix. Ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent.
Mm-hmm. »
Et Zacharie avait prophétisé aussi que son fils Jean-Baptiste conduirait les gens dans le chemin de la paix.
Mm-hmm.
Il dit « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
Ouais. »
Et justement, par rapport à la paix, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé dans l'histoire. Hein,
OK, vas-y.
Je pense qu'on va en parler de ça. Durant la Première Guerre mondiale, en 14-18, les soldats du front occidental étaient épuisés et choqués par l'étendue des pertes humaines qu'ils avaient subies depuis le mois d'août.
Mm-hmm.
Alors, il y a des soldats allemands qui ont initié quelque chose de tout à fait extraordinaire pendant le temps de Noël. 5 mois après le début de la guerre, ils se sont adressés aux soldats anglais ainsi. Ils ont dit... « We Saxon, you Anglo-Saxon. » Autrement dit, nous, on est des Saxons comme vous, là.
OK, oui.
Puis il y en a d'autres qui ont crié « We don't shoot, you don't shoot.
Mm. »
On ne tire pas, vous ne tirez pas.
Mm-hmm.
Ils sont sortis de leur tranchée en chantant des cantiques de Noël et en scandant « Joyeux Noël » en plusieurs langues.
Mm.
Et comme ils ne portaient pas de leur fusil, peu à peu, les soldats anglais sont sortis, eux autres aussi, et ils les ont rejoints dans le No Man's Land. Ils se sont mis à fraterniser, à échanger du tabac et d'autres présents.
Oui.
Il y en a même qui pensent qu'il y en a un match de football, de soccer, qui se sont disputés entre eux.
Mm-hmm.
La trêve, elle a duré pendant 2-3 jours, puis à certains endroits, même une quinzaine de jours, selon les récits qu'on peut lire de cet événement-là.
Mm-hmm.
Moi, je trouve ça très émouvant de voir ces hommes-là, dans les tranchants, en train de se battre, là, saisis par l'esprit de Noël.
Mm-hmm.
Puis, mais les dirigeants... des pays, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Les généraux et tout ça, eux autres, ils voulaient qu'ils se battent.
Mm.
Donc, pour rompre cette fraternité-là, pour refaire la guerre, en fin de compte, ils ont fait la rotation des troupes. Ils ont pris les troupes qui étaient à un endroit, puis ils ont envoyé se battre ailleurs contre du monde qu'ils n'avaient pas rencontré.
J'imagine que ça doit être difficile de vouloir tirer sur quelqu'un qui est devenu ton ami. Hein?
Ben, c'est ça. Hein? C'est que ça montre vraiment l'absurdité de la guerre, en fin de compte. Ouais. Là, que on te demande de te battre contre quelqu'un que tu ne connais pas, puis que lui ne te connaît pas non plus, puis c'est un non-sens. Puis les gens qui veulent la guerre, en fin de compte, se battent pas. Ils sont dans le retraite fermée, puis ils laissent les autres s'entre-détruire pour leur satisfaction personnelle, en fin de compte. Puis il y avait le brigadier général Walker de l'armée britannique qui avait déclaré qu'il voulait interdire cette fraternisation-là. Il disait « Elle décourage l'esprit d'initiative et détruit l'esprit d'offensive dans les rangs. Des relations amicales avec l'ennemi, des armistices spontanés et des échanges de tabac et d'autres biens, aussi tentants et amusants qu'ils soient, doivent être absolument interdits. »
Ouais.
Il voyait là, qu'en fin de compte, la fête de Noël là, était en train de complètement faire cesser la guerre puis amener la paix. Wow, comme Zacharie avait prêché, de dire « Tu vas nous amener dans les chemins de la paix.
»
Moi, je trouve que seulement pour cet événement-là, dans l'histoire de l'humanité, la fête de Noël a eu sa raison d'être. Quand bien même qu'il n'y aurait pas eu d'autres événements positifs, à cause de ça, ça a sa raison d'être. Puis même quand on y pense, combien qu'il y a eu de familles et d'amis qui se sont réconciliés pendant le temps de Noël? Tu sais, des gens qui ne pouvaient plus se parler, qui ne pouvaient plus se voir. OK, puis là, ils arrivaient, ils se rencontraient, puis là, ils se rendaient compte. Ouais, après tout, là ils mettaient le différent de côté, puis il y avait des relations qui recommençaient. C'est pour ça que moi, je trouve que, en fin de compte, Jésus est venu annoncer la réconciliation puis la paix avec Dieu.
Puis aujourd'hui, on peut vivre cette réconciliation-là.
Oui, c'est ça. Puis le temps de Noël offre un moment privilégié où on peut se réconcilier avec les gens qu'on a vus des fois. Parce que là, des fois, tu n'as pas le choix de les rencontrer. Tu peux les éviter le restant de l'année, mais à la fête de Noël, ils sont là. Là, tu es comme poussé, en fin de compte, à dire « Bon, ben là, je ne peux pas continuer à me chicaner avec quelqu'un qui est que j'ai devant moi puis je suis en train de me réjouir pour le party de Noël. »
C'est ça. Mais ce récit historique-là, c'est vraiment bénissant parce que ça nous fait penser au royaume de Jésus, justement, quand on va vivre le millénium et là, ensuite, la Nouvelle-Jérusalem. Mais si on parle juste d'un texte ici dans Ésaïe, 65, verset 19, on voit ici, ça dit « On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » On n'entendra plus parler de guerre. Là, au verset 20, « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habitent, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. » Ça veut dire qu'il n'y aura plus même l'animosité entre les créatures. Là.
C'est ça.
« Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Puis ça, là, je trouve ça absolument bénissant quand on voit, ça c'est juste pendant le millénium, là, qu'on voit le royaume de Jésus sur la terre. Ça va être la paix sur la terre. C'est pour ça qu'on peut se réjouir que Jésus est venu. Là, en ce moment, des fois, il y a des gens qui disent « peace and love », surtout dans les années 60. « Peace and love », bien, c'est très beau comme sentiment, mais ça n'arrivera pas avant que Jésus soit là. Et il y a toujours des discussions aussi en politique pour résoudre les problèmes en Israël et tout ça. Et puis, les hommes vont essayer d'amener la paix, mais malheureusement, ils vont toujours échouer. Ils n'auront jamais cette victoire-là parce que la paix sur la terre va seulement venir avec le prince de la paix qui va être là. Sauf que moi, je me réjouis de la venue du prince de la paix, notre Seigneur Jésus. Puis c'est merveilleux.
Oui. C'est le prince de la paix, puis comme tu as souligné, on peut voir ça même comme un avant-goût du millénium, la fête de Noël. Le fait que la paix est là parmi les gens, puis que les gens se réconcilient, tout ça, tu dis, on peut même voir ça comme un avant-goût. C'est vraiment le mot, je trouve.
C'est ça.
Puis c'est pour si on peut compléter ça, on peut dire que c'est pour la liberté que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est pas pour nous enfermer dans des règles strictes, Mm-hmm. Si alors, ça veut dire qu'on est libre tout simplement de souligner sa naissance le 25 décembre. Mm-hmm. Si on veut le souligner aussi à la fin de septembre, parce qu'on dit qu'historiquement, c'est plus dans ce temps-là, ben, ouais. On en parlera deux fois, c'est tout.
Absolument, ben oui.
C'est pas plus grave que ça. Moi, je serais prêt aussi qu'on souligne d'une manière spéciale à la fin de septembre, dire, hey, saviez-vous que Jésus est né à cette époque-ci?
Ouais,
ça peut nous donner des occasions de témoigner aux gens aussi. Ah oui, en septembre, ah, c'est bizarre.
Ouais, c'est
sûr qu'on va piquer leur curiosité si on les amène ça. Hein. On dit, hein, ben, nous autres, on pensait que c'était le 25 décembre.
Ouais,
ben,
c'est
là,
ça.
Ça peut faire une belle porte ouverte.
Et toi, Yvan, en tant que commerçant, tu pourrais même décorer ton lieu de travail avec des décorations Joyeux Noël à septembre. Là,
ben oui, les gens vont dire, voyons, t'es pas de bonheur un peu,
ouais,
là, toi. Là. Ben non,
ouais,
on pourrait dire, ça vient où ça?
J'ai le cœur en fête.
C'est bon. On va voir ça pour le mois de septembre l'année prochaine.
Oui, c'est ça. Je vais lire un autre texte aussi qui me bénit concernant la venue du Seigneur dans Ésaïe 9, 5. Ça nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et c'est vraiment ça. Jésus, c'est notre prince de la paix. Et puis moi, ça me réjouit quand on célèbre Noël, certainement.
Mm-hmm.
C'est que si on fait un retour un petit peu, Yvan, là, en terminant cette émission, il y a plein de choses qu'on veut être certain d'avoir couvert, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont encore des questions concernant Noël. Est-ce que tu vois, il y a des choses encore qu'on devrait enlever là, du chemin à cette célébration?
Donc, je pense qu'on a fait le tour, puis je vous dirais, pensez aux lumières de Noël.
Mm.
Pensez que Jésus veut qu'on soit la lumière dans ce monde de ténèbres.
Oui.
Le monde, présentement, est éclairé artificiellement par les lumières de Noël, mais nous, on peut être les vraies lumières du monde. On peut être les vraies lumières de Noël.
Oui.
Soyons brillants dans ce temps-là. Soyons joyeux. Manifestons l'amour. Manifestons la paix. Mm-hmm. Manifestons le caractère de Jésus spécialement dans cette époque-là. Puis je pense qu'on va avoir un impact profond dans notre société dans le temps de Noël.
C'est merveilleux. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un à la radio aujourd'hui qui dit, bien, je vous entends parler de Jésus, la fête de Noël, et je n'ai jamais vraiment réalisé que c'était la fête de la venue du Sauveur du monde. Je vous entends parler, puis je me demande, est-ce que Dieu aurait peut-être un plan pour ma vie? S'il y avait un plan pour Jésus, est-ce qu'il y avait un plan pour ma vie? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, absolument, Dieu a un plan pour vous. Il y a des projets de paix et non de malheur. Malheureusement, par contre, quand on réalise le plan de Dieu, je dis malheureusement, on est tous pécheurs. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on doit réaliser premièrement qu'on est éloigné. On est éloigné de Dieu par nos péchés. Mais heureusement, le bon côté de la médaille, c'est que le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous pardonner de tous nos péchés, pour payer en fait notre dette de péché. Et puis, si vous croyez aujourd'hui que le Seigneur Jésus est venu spécialement pour vous libérer de vos péchés, pour vous pardonner, bien vous pouvez lui demander d'entrer dans votre vie. Vous pouvez lui céder votre vie et dire, « Écoute, Jésus, ça fait tellement longtemps que j'essaie de vivre ma vie à ma façon. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est je veux répondre à cet appel que j'entends aujourd'hui à la radio, où j'entends parler de ta bonté, la paix que tu donnes dans les cœurs des hommes et des femmes. Mais moi, j'aimerais ça vivre cette paix. Bien, vous pouvez commencer aujourd'hui en lui donnant votre vie. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça veut dire qu'on va être délivré de l'enfer, de la pénalité du péché, qui est la mort spirituelle éternellement. Et là, le Seigneur aujourd'hui veut vous offrir la vie éternelle. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, en fait, notre foi en lui, qu'on parvient au salut. Et aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut que vous puissiez célébrer Noël aujourd'hui, dans cette saison, et vraiment vivre la joie de Noël comme jamais auparavant. Et quand vous direz aux gens « Joyeux Noël », vous pourrez également l'expérimenter parce que vous aurez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous aimeriez avoir d'autres informations sur la nouvelle naissance, comment donner votre vie au Seigneur Jésus, contactez-nous en nous écrivant à info@evqmedia.com, info@evqmedia.com, et puis ça va nous faire un grand plaisir de vous envoyer des enseignements sur la nouvelle naissance pour vous aider à grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'ici à la prochaine fois, merci beaucoup, Yvan, d'avoir été à l'émission Semences de la foi. On a eu du bon temps. J'espère que vous avez grandi dans les voies de Dieu concernant la fête de Noël. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis et joyeux Noël!